Amen. Merci Seigneur. Vous pouvez prendre place, bien-aimés, et je vous invite à ouvrir la parole de notre Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 14, et nous lirons à partir du verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Ça, mes amis, c'est le résumé d'une vraie conversion. Et en même temps, c'est exactement ce qu'il faut faire pour se retrouver dans le registre de la Mivilude, mission de vigilance pour les sectes. Hein ? Exactement ce qu'il faut faire. Parce que, voilà, si on regarde au premier degré, au verset 26-27, séparation d'avec les siens, rejet de la famille, sacrifice de sa vie, travailler pour le Seigneur, devenir un disciple. Ouais. Si vous dites ça aujourd'hui, ben, vous allez être considéré comme secte. Et pourtant, c'est ce que Jésus dit. Je dis, vous êtes considéré comme secte, pourquoi ? Parce que les gens jugent hâtivement, hélas, parce que les gens oublient d'examiner la totalité de la doctrine et du fonctionnement du Seigneur. Hein ? Voilà. Mais malheureusement, c'est comme ça trop souvent que ça se passe. Mais c'est quand même bel et bien le résumé d'une vraie conversion. Et Jésus va illustrer cela maintenant par ce que nous lisons à partir du verset suivant, trois images successives. Verset 28. « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Pardon. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas d'oreille ici ? J'ai l'impression que tout le monde en a. Voilà. Donc, trois images qui sont employées là pour parler de la conversion et surtout pour parler de la nécessité de bien réfléchir quand on se convertit. De bien se décider, de bien se déterminer. Le Seigneur le dit, ce n'est pas une chose qu'il faut faire sur un coup de sentiment. Ce n'est pas une chose qu'il faut faire simplement parce que d'un seul coup, on va se retrouver dans un groupe enthousiaste et puis qu'on va se laisser entraîner par eux. Merci pour l'enthousiasme, merci pour les sentiments. Mais ce n'est pas ça qui doit nous conduire dans la vie. Ce qui veut conduire dans la vie, c'est une décision ferme du cœur, réfléchie, convaincue, prise avec foi. C'est ça qui doit nous conduire. Voilà. Et puis, voilà que l'image que nous allons développer un peu aujourd'hui, c'est celle de la tour que le Seigneur emploie là dans les versets 26 et 27. Hein. Pardon. Verset 28 et suivant, pardon. Donc, parlons de la tour. L'image de la tour est intéressante parce que bon, ça nous aide déjà à réfléchir aux usages d'une tour. Une tour, ça sert à quoi ? Une tour, ça sert déjà à prendre de l'altitude. Hein ? C'est pour ça qu'une tour est faite en général. Ça nous aide à nous élever au-dessus du sol, hein, au-dessus du plancher des vaches, comme on pourrait dire. Hein. Donc, et ça doit nous parler parce que nous aussi, eh bien, si nous construisons quelque chose, il faut que ça puisse nous élever au-dessus des préoccupations de ce monde, hein, pour nous attacher aux choses du ciel, pour nous préoccuper du ciel, nous préoccuper de l'éternité, parce que si nous avons reçu Christ, nous sommes citoyens de la Jérusalem céleste. Avant toute chose, avant même d'être citoyen français, je suis citoyen de la Jérusalem céleste. Donc, il faut que j'y attache mon intérêt, il faut que je m'élève et que j'élève mon âme. Ensuite, la deuxième chose, une tour, ça nous sert à avoir une vue élargie de la région, des événements, du paysage, ça me permet de voir au loin. Vous savez, aujourd'hui, avec les temps et les circonstances que nous vivons, qui se bousculent dans tous les sens, on a plus que jamais besoin de pouvoir prendre du recul, et je dirais même plus, prendre de l'élévation pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre pourquoi les choses se passent comme ça, pour comprendre quelles peuvent être les choses qui vont venir, pour pouvoir voir venir les choses de loin. N'est-il pas vrai? Nous avons besoin de cela. Et non seulement ça, mais une tour, c'est aussi quelque chose qui servait à veiller, qui servait à monter la garde. On y plaçait une sentinelle. Ainsi lisons-nous, par exemple, dans Ésaïe chapitre 21, verset 8, « Voici, je me tiens à la tour toute la journée. » Et il dit cela parce qu'il est en train de veiller pour voir l'exécution de la parole de Dieu. Et dans le livre du prophète Habacuc, au chapitre 2, au verset 1er, il est écrit encore « Je me tenais sur la tour, je veillais. » Voilà. Donc, et la parole de Dieu nous appelle à veiller et à prier afin de ne pas tomber dans la tentation, puisque plus que jamais aujourd'hui, l'ennemi rôde comme un lion rugissant, et plus que jamais dans les derniers temps, il va essayer de semer la confusion, la séduction de toutes sortes de manières, et nous sommes véritablement en plein dedans. Et il faut qu'on puisse voir les choses. Dans le journal du Courrier international de cette semaine, j'avais une série de petits articles là, qui avaient pour titre... L'ensemble, c'était un été de catastrophe climatique. Voilà, décrivent donc quelque chose. Alors, ils parlaient de ce qui s'est passé en Allemagne, hein, je pense que vous avez su, je ne m'étends pas trop, mais ça a été catastrophique, effectivement. Dans un journal allemand, il disait, on ne peut plus seulement parler de concept de catastrophe naturelle, mais il dit, on peut vraiment parler de catastrophe climatique, hein, parce que voilà, c'est un changement climatique qui s'opère. En Chine, vous avez su ce qui s'est passé aussi, hein, avec les inondations dans le métro de Zhengzhou, donc là aussi des centaines de morts, hein, la catastrophe la plus meurtrière causée par une catastrophe naturelle, le plus de morts à cause de cela. Ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est qu'au Groenland, par exemple, la fonte des glaces s'intensifie à un rythme qu'on n'imaginait même pas. Rien que de la journée du 27 juillet, où il y a eu une température de 19,8 degrés, eh bien, vous avez, la calotte glaciaire a perdu 8,5 milliards de tonnes de glace en une journée. En une journée, hein, donc, et le spécialiste des glaciers Marco Tedesco de l'Université Columbia aux États-Unis dit que ce niveau de fond très élevé va probablement changer la configuration du Groenland et accélérer l'élévation du niveau des mers. Donc, il dit que le Groenland fond à une vitesse jamais vue depuis 12 000 ans. Enfin, je ne sais pas comment ils peuvent calculer jusqu'à 12 000 ans, mais enfin voilà. Donc, ensuite, vous avez certainement entendu parler des énormes incendies qui se sont passés à l'ouest du Canada ou des États-Unis. Donc là, dans le sud de l'Oregon, vous avez encore un immense feu dont ils pensent qu'ils auront peut-être le contrôle au courant du mois d'octobre. Hein, donc 400 000 hectares de brûlés déjà avec ce feu qui génère sa propre météo. Voilà, vous voyez comme quoi on arrive. Des phénomènes qui ne sont jamais produits à une telle ampleur. Et on entre là, je crois qu'on est, quand on parle de ce que Jésus annonce comme le commencement des douleurs, dans Matthieu 24, verset 8, à propos du temps de la fin, bah écoutez, on y arrive d'autant plus que ce que je vous dis là, c'est encore rien par rapport à ce que je vais vous dire maintenant. Hein. C'est-à-dire qu'en Russie, et ça peut-être on ne le sait pas, mais en Russie, moi je l'ai appris, vous avez l'équivalent de la surface totale de la Grèce qui vient de partir en fumée. 134 000 km². Ça veut dire 33,4 fois plus que le grand incendie qu'il y a aux États-Unis en ce moment. Ça vient de partir en fumée là depuis un mois, donc c'est la forêt de Saka, donc une république de la Fédération de Russie, un des endroits qui est normalement en Sibérie les plus froids du globe, et la fumée de cet incendie, ça couvre une surface de 5,3 millions de km², c'est-à-dire plus que la surface de l'Europe occidentale. Hein, ça, c'est en ce moment ça. Et là, vous avez en ce moment cet épais brouillard, donc jour et nuit, qui transforme le jour en nuit dans cette région. Donc, et alors le problème, c'est qu'en même temps, avec ça, vous avez ce qu'on appelle la bombe à méthane, c'est-à-dire la libération de méthane lors du dégel des zones humides du pergélisol sibérien. Donc ça s'annonce avec ça bien pire que prévu encore. Une augmentation des émissions de méthane en quantité potentiellement beaucoup plus importante, surtout qu'on est confronté à un nouveau problème, c'est que jusque-là, il s'agissait surtout de méthane microbien qui est issu de la décomposition du sol, des matières organiques. Mais là, le problème, c'est que le dégel du calcaire, lui, libère des hydrocarbures, des hydrates de gaz, ce qui le rend encore beaucoup plus dangereux. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on aura beau avoir tous des voitures électriques, on aura beau avoir tous des maisons isolées sans aucune perte, avec ça, rien qu'avec ça, c'est plus possible de revenir en arrière. Ça, c'est la réalité des faits. C'est la réalité des faits. Et je crois qu'il faut quand même qu'on réalise ça. Il faut quand même qu'on réalise le temps qu'on vit. Il y a encore un organisme de chercheurs, une étude publiée en février dans la revue Geophysical Research Letters, qui analyse 60 ans de données climatiques et qui disent que si simplement ça continue comme ça, ça veut dire qu'avant la fin du siècle, on aura un été qui dure 6 mois. Un été qui dure 6 mois avec, imaginez, les vagues de chaleur beaucoup plus intenses, extrêmes, plus de sécheresse, plus d'incendies. Et on ne peut pas faire autrement que de revenir à ce que nous dit l'Apocalypse concernant les temps de la fin. Par exemple, Apocalypse 8, verset 7, « Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, toute herbe verte fut brûlée. » Ça, c'est la première trompette sur les 7 trompettes de l'Apocalypse. Et un peu plus loin, au chapitre 16, au verset 8, encore, il est question du soleil, et il lui dit « Il lui fut donné de brûler les hommes par le feu, les hommes furent brûlés par une grande chaleur. » Ça, c'est la quatrième coupe. Voyez-vous ? On y va, mes amis, vous savez, on peut dire tout ce qu'on veut, la réalité est là. Je ne vous parle même pas des autres phénomènes dont on peut parler dans notre société, etc. Mais là, on est devant des réalités qui sont incontournables, et malgré tous les combats qu'on va avoir, que je ne veux pas mépriser, mais c'est sans issue. Et c'est sans issue, et c'est pour ça. Et c'est pour ça que lorsque l'apôtre Paul nous parle, je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre au sérieux, qu'il faut vraiment prendre en compte plus que jamais. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière, c'est dans Romains chapitre 13, verset 12, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, dit l'apôtre. Quand on voit là, comme je vous dis, quand on connaît en plus les autres signes, alors, c'est vrai, je ne vois pas comment quelqu'un qui n'a pas voulu se tourner vers le Seigneur jusqu'à présent, comment un inconverti qui est au courant de ces choses, qui réalise ces choses-là, et qui reste dans son état, qui ne se tourne pas vers Dieu, je ne vois pas comment il va pouvoir faire autrement que d'être perdu, terriblement, perdu sans excuse et perdu sans remède. Et je dirais que je vois encore moins comment un chrétien peut se laisser aller. Comment il peut abandonner, négliger son service, l'œuvre de Dieu, l'engagement qu'il avait pris, alors qu'il faudrait au contraire devenir de plus en plus consacré et de plus en plus ardent pour le Seigneur. Amen. Donc voilà, ça c'est, on est devant ces réalités-là, on est devant ces nécessités-là qu'il nous faut saisir. Je reviens à notre tour. Une tour était construite aussi pour protéger la vigne. Dans Ésaïe 5, verset 2, il est marqué « Il bâtit une tour au milieu d'elle ». Et le Seigneur Jésus reprend cela en le développant dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, au verset 33. « Il bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons ». Donc, la vigne, c'est l'image de quoi ? C'est l'image du bon fruit que nous devons, que nous sommes appelés à porter pour Dieu avec le secours du Saint-Esprit. La vigne, c'est l'image de ce véritable amour avec tous ses effets, toutes ses conséquences que Dieu veut que nous puissions manifester envers notre prochain, envers nos frères et sœurs dans la foi. Et il faut veiller sur cette vigne-là. Il faut veiller que ce fruit puisse être produit de manière suivie, de manière régulière, de manière abondante avec le secours d'en haut. Amen. Et puis, une tour était là aussi pour protéger le troupeau. Ainsi lisons-nous dans Michée chapitre 4, verset 8, « Et toi, tour du troupeau ». Voilà, c'était pour que le berger puisse être en sécurité et que les bergers puissent avoir donc le soutien d'un point d'appui pour se protéger des pillards, pour être avertis de leur approche. Donc on voit cela. Et de même aussi, chacun pour notre part, si nous sommes des brebis du troupeau, nous avons aussi à notre niveau, la responsabilité d'assurer la garde et la protection, en particulier spirituelle, de ceux que Dieu a mis avec nous. Il faut que nous y veillions. Il faut que nous soyons des modèles et des exemples pour cela. Et il faut que nous puissions être vraiment des encouragements pour eux dans ce sens également. Amen. Une tour aussi a été construite pour protéger un point d'eau dans le désert. Ainsi lisons-nous que du temps du roi Ozias, dans 2 Chroniques chapitre 26, il est écrit « Il bâtit des tours dans le désert et il creusa beaucoup de citernes. » Et il a mis ainsi en place les conditions pour que ces régions désertiques deviennent habitables peut-être, à certains endroits, pas forcément partout, mais en tout cas suffisamment sécurisées pour que tout le monde puisse aller d'un point à un autre et y trouver l'eau indispensable à la vie. Et puisse y trouver donc un point d'eau entretenu et en bon état. Et notre responsabilité, c'est bien sûr d'aller à Jésus et de recevoir de lui l'eau de la vie. Mais ensuite, c'est aussi de croire pour que de notre sein puisse jaillir une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle et qui puisse aussi être un moyen de bénédiction, un moyen d'apporter cette vie à ceux qui dans ce pauvre monde, dans ce pauvre désert de ce monde, sont tellement assoiffés et ne savent pas vers qui se tourner. Amen. Amen. Et puis une tour aussi qui avait été construite pour servir de refuge pour les voyageurs. Et nous lisons dans 2 Chroniques 27 au verset 4, « Il bâtit des villes dans la montagne de Juda et des châteaux et des tours dans les bois. » Alors les bois, ce n'étaient pas des grandes futaies comme on a chez nous, mais c'était voilà, c'est une espèce de maquis broussailleux, épineux, incontrôlable, et hélas trop souvent incontrôlé, ce qui faisait que dans ces régions, vous pouviez avoir du brigandage de diverses façons. Donc là encore, des tours étaient bien précieuses, bien nécessaires pour pouvoir assurer la sécurité, pour que les voyageurs puissent être eux aussi protégés et gardés dans le trajet. Vous savez, les voyageurs de cette vie, les voyageurs de cette existence sont en proie à toutes sortes de périls. Il y a toutes sortes de bandits, il y a toutes sortes de brigands qui existent dans ce monde et qui veulent nous enlever ce que nous avons de bon. Que ce soit depuis notre enfance jusqu'à notre vieillesse, nous savons cela. Et voilà, donc, lorsqu'on a soi-même la sécurité de la communion avec Dieu, d'une assemblée, bien c'est un grand privilège, mais que nous puissions également être des indicateurs ou des moyens pour qu'il en soit ainsi pour d'autres. Amen. Voyons-nous ainsi l'importance de cette tour, de cette image employée par le Seigneur Jésus pour chacun d'entre nous. Alors maintenant, comment faire pour construire une tour? Ça, c'est la deuxième grande question. Comment faire pour construire une tour? Alors déjà, pour construire une tour, il faut être convaincu de l'importance de le faire. Déjà, ça, c'est la première chose. Donc, pour les diverses raisons qui ont été citées plus haut. Mais il faut aussi que nous ayons cette conviction en nous-mêmes, et que nous ayons vraiment cette conviction très fortement en nous. C'est pas une question d'âge, c'est pas une question de force, c'est vraiment en premier une question de conviction. Vous savez, les gens, ils se disent, moi, j'ai pas les moyens de ceci, j'ai pas les moyens de cela. Et il me revient toujours à l'esprit l'exemple de cet homme que j'ai connu, un petit peu, et c'était un simple ouvrier qui avait pas du tout un gros salaire. Et quand il est arrivé à la retraite, il était propriétaire de 4 maisons. 4 maisons qu'il avait achetées, qu'il avait retapées, construites. Alors, si je prends cet exemple-là, ce n'est pas pour vous inviter forcément à faire pareil, mais c'est pour vous dire combien lorsque quelqu'un est résolu à orienter ses efforts dans une direction, à travailler, à épargner, à planifier pour le but qu'il s'est fixé, combien il peut arriver effectivement à des résultats intéressants. Là, je vous parle même pas forcément du Seigneur, voyez. Je parle même pas forcément de quelqu'un qui est dans le Seigneur, mais je vous parle de cette nécessité, la valeur d'un engagement, la valeur d'une décision dans cet engagement. Ça, c'est important et ça, c'est extrêmement précieux, extrêmement nécessaire. Et je dirais que la clé du succès de tout engagement, c'est cette détermination qu'on a prise. William Carey a été l'instigateur des organisations missionnaires modernes. Et pourtant, il n'avait reçu, lui, qu'une éducation élémentaire. Mais déjà, à l'âge de 20 ans, il lisait la Bible dans 6 langues différentes. Bon, il avait un don pour ça, déjà, on ne peut pas dire le contraire. Mais quand même, c'est ça qui lui a permis de partir en Inde. Et 6 ans plus tard, il a fondé la mission de Serampore, avant d'accepter, quelques années plus tard, le poste de professeur de langues orientales à l'université Fort William de Calcutta. Et il est devenu aussi éditeur. La mission de Serampore s'est mise à imprimer et à distribuer des Bibles dans 40 langues et dialectes différents, et ils ont touché ainsi plus de 300 millions de personnes dans le sous-continent indien. Toute son influence a été considérable là. Alors, quel était le secret de cette réussite remarquable, de cette réussite extraordinaire? Est-ce qu'il avait d'importantes ressources financières? Ben non, pas du tout. Hein. Est-ce que le terrain de mission était facile? Ben non, pas du tout non plus. Hein. Et Carré affirmait même la chose suivante, écoutez bien, « Je ne suis qu'un obstiné qui va toujours de l'avant. C'est le seul trait de génie de mon caractère. Je suis capable de persévérer dans n'importe quelle direction, envers et contre tout. Voilà la seule raison de mon succès. » En dehors du Seigneur, évidemment. Hein. Mais quand même, le Seigneur ne fait pas les choses à notre place. Hein, donc, il faut quand même qu'on sache cela. Et encore un homme de Dieu disait, « Le plus difficile pour l'esprit humain, c'est de se focaliser sur un but, puis de rassembler son énergie et travailler sans relâche à l'accomplissement de ce but. » J'ai écouté un petit peu, à l'occasion, comme ça, sur France Info, les interviews de certains des médaillés des Jeux Olympiques de Tokyo. Et vous ? Après coup. Et moi, ce qui m'a frappé, il y a toujours une chose qui revient. C'est que tous ces gens-là, ils ont bossé pendant 5 ans, puisqu'il y a eu 5 ans, c'était la dernière fois, hein. Ils ont bossé pendant 5 ans pour un but. Et ils se sont sacrifiés, ils se sont consacrés pour un but. Et ils sont arrivés, des fois, de justesse, mais parce qu'ils avaient fait comme ça. Alors, il y a d'autres qui n'ont pas forcément eu la même médaille, qui ont peut-être fait la même chose qu'eux. Mais en tout cas, ceux qui ont eu la médaille, je me suis aperçu qu'ils ont tous fait comme ça. Hein. Donc, ceci pour nous parler, là je parle même pas des choses de Dieu, mais quand même, c'est aussi une indication, parce que Dieu, encore une fois, Dieu ne fait pas les choses à notre place. Hein. Et c'est important que nous sachions qu'on ne peut pas faire 36 choses en même temps, bien. On en fera une, et si on la fait dans la bonne position, eh bien on la fera bien. Hein. Et ça, c'est précieux, c'est important. Alexandre le Grand, c'est quelqu'un qui a remporté des victoires éclairs. Il a conquis en très peu de temps un immense empire. Le problème, c'est qu'il n'a pas su le garder. Déjà parce qu'il n'avait pas la maîtrise de lui-même. Hélas, il était esclave de l'alcool. Mais quand même. Donc, et quel est son secret? Eh bien, son secret a été le suivant. Hein, c'est qu'à un moment, par exemple, ils étaient en train de progresser contre la Perse. Ils avaient remporté déjà des victoires. Arrivé à un point critique, stratégique, ben, il apparaît que le risque d'être défait par l'ennemi était en train de devenir de plus en plus grand. Et là, la clairvoyance d'Alexandre le Grand, ça a été de voir que ses soldats, ses propres soldats à lui, s'étaient chargés de tellement de butins qui provenaient des précédentes victoires qu'ils étaient surchargés et que c'était sûr qu'ils allaient perdre de leur efficacité au combat. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné que tout le butin soit amassé en un tas immense. Et il y a fait mettre le feu. Ah, vous imaginez les récriminations, les plaintes. Mais au moment de la bataille, tous ont compris la sagesse de cette décision parce que le fait de marcher, le fait de se battre d'un pied léger a été un facteur déterminant pour la victoire. Et c'est pour ça que l'apôtre nous dit dans l'Épître aux Hébreux, « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Attention, vous avez remarqué la différence ? Il n'a pas dit que le fardeau est un péché. Il dit « rejetons tout fardeau d'abord et le péché ». Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas des péchés, mais qui sont des fardeaux. Ça existe ça dans les vies. Des choses qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais qui nous empêchent de faire ce que Dieu voudrait qu'on fasse et qui nous empêchent de voir la bénédiction de Dieu sur nos vies. C'est pour ça qu'il dit « rejetons tout fardeau ». Et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Alléluia. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Le fait d'être délivré du fardeau, du désir de possession, de l'amour, de l'argent, de la poursuite du plaisir, de l'esclavage des passions, et d'avoir les yeux fixés sur notre objectif et d'aller dans cette direction-là. Béni soit le Seigneur, c'est comme cela que nous allons être admirablement soutenus et secourus. Amen. Et puis, il y a une autre chose qu'il faut comprendre lorsqu'on construit une tour. C'est qu'il est difficile de construire une tour tout seul. On a besoin de secours mutuel. On a besoin d'en aider d'autres qui sont engagés dans la même entreprise et que nous puissions aussi être aidés par eux. Ça, c'est quand même primordial. Là, encore une fois, un exemple qui vient du monde, c'est la Fondation Carnegie qui a découvert que pour réussir sa carrière, les capacités relationnelles sont nettement plus importantes que les connaissances. Les recherches ont démontré que seulement 15% du succès d'une personne est dû aux capacités techniques et à la connaissance du métier, et 85% est déterminé par l'attitude de l'individu envers ses collègues et sa capacité d'établir et de soigner ses relations. Voilà, ça c'est le monde qui nous l'explique. À combien plus forte raison dans l'œuvre de Dieu ? La parole du Seigneur nous recommande d'être bons les uns envers les autres, compatissants. Nous pardonnons les uns aux autres comme Dieu nous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, verset 32. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est quelque chose qui est valable spécialement pour ceux qui vivent près de nous, pour ceux qui travaillent près de nous, à plus forte raison pour nos frères et sœurs dans l'Assemblée. Et c'est là encore la clé du succès de notre vocation et de cette tour que nous devons construire en communion avec le Seigneur et puis en communion aussi avec d'autres, compagnons d'œuvre et de combat, comme dit l'apôtre Paul. Amen. Amen. Voilà. Et puis, une bonne chose aussi importante, c'est qu'il faut s'assurer les services d'un spécialiste autant que possible. Parce que quand vous construisez une tour, vous ne construisez pas une cabane à lapin, excusez-moi. Vous construisez quelque chose de délicat. C'est quelque chose de particulier. Déjà, au niveau des fondations. Parce que les fondations d'une tour devront évidemment être beaucoup plus puissantes, beaucoup plus profondes. Vous imaginez le poids qui va reposer là, que celle d'une simple maison, par exemple. Donc, puis sans parler, je ne sais pas moi, de l'escalier en colimaçon à l'intérieur, ce n'est pas non plus à la portée de tout le monde forcément. Enfin voilà. Donc et ça nous montre que nous aussi, il est important évidemment de nous attacher les conseils du Seigneur et de sa parole par son esprit, et puis aussi de ceux qui ont l'expérience, ceux qui ont déjà construit des tours, ceux qui ont été établis pour participer, pour être des constructeurs du temple de Dieu, de l'édifice de Dieu. Voilà, donc ça c'est important. Et puis encore un autre point, c'est que quand on se met à l'œuvre, il faut évidemment, je l'ai soulevé rapidement, il faut aussi de solides fondements. Et plus la tour doit être importante, et plus les fondements doivent être profonds et inébranlables. Là, encore une fois, alors si vous avez envie de faire comme la tour penchée de Pise, ben voilà, c'est ça justement la chose qu'il ne faut pas faire, et c'est important aussi à cause de cela. On le voit. Alors, notre fondement solide, ça doit être et ça doit rester vraiment la parole de Dieu. Nous devons considérer la parole de Dieu exactement comme Jésus l'a considérée et pas autrement. Et je reviens dessus, pourquoi ? Pardon. Parce qu'aujourd'hui, même dans les évangéliques, vous avez toutes sortes de tendances. Vous avez certains qui commencent à dire « Ah oui, mais vous savez, j'entends ce discours-là. » Par exemple, pas forcément ici à l'église, mais j'entends ce discours-là dans les évangiles. Ah ben, vous savez, le plus important, c'est ce qui est marqué dans les évangiles. Les épîtres de Paul, ça passe en deuxième. Par exemple, vous voyez, déjà, ça commence mal comme ça. Puis après, ils font encore la même chose pour l'Ancien Testament. Ils commencent à discuter sur l'Ancien Testament. Vous savez, le Seigneur Jésus a dit « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». Luc chapitre 11, verset 28. Et Jésus faisait confiance à la parole de Dieu dans son intégralité. Nous le voyons très clairement. Il dit, je vous le dis en effet, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota ou un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Matthieu chapitre 5 et au verset 18. Voilà. Vous savez, certains, ils vont dire, ah ben vous savez, l'Ancien Testament, faire attention, il y a des récits qui sont là, Adam et Ève dans le jardin, la Genèse, tout ça, Noé, son arche, tout ça, et puis ils commencent à discuter là-dessus. Moi, je m'aperçois que Jésus, déjà, dans ce qu'il nous a rapporté de lui, de sa parole, dans le Nouveau Testament, il a pris des extraits de tous les livres de l'Ancien Testament, sauf un, le livre d'Esther, hein, de tous les livres, pour appuyer son enseignement dessus. Donc ça veut dire qu'il les considérait tous comme inspirés. Déjà, ça c'est première chose. Hein. Et il a aussi déclaré, nul ne peut abolir l'Écriture. C'est dans Jean chapitre 10, verset 35. Vous savez, lorsqu'on prend, on s'aperçoit que Jésus considérait comme véridique le fait que Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Il en parle lui-même, hein, et il a considéré comme véridique l'histoire de Noé et du déluge, l'histoire de Sodome et Gomorre, ou encore l'épisode de Jonas et du grand poisson. Pour lui, c'était la réalité. Alors, si Jésus croyait que ces aventures-là s'étaient réellement passées, nous devons y croire aussi. Si Jésus faisait confiance à la Bible, nous devons absolument en faire autant. Voilà notre fondement, à condition, bien sûr, que nous le mettions aussi en pratique. Hein. Donc voilà, donc ça c'est, nous parlons ainsi de notre fondement de manière globale. Après, il y a le fondement dans notre propre vie chrétienne. Et le fondement de notre propre vie chrétienne, c'est quand même au départ une vraie conviction de péché, une vraie repentance et une vraie conversion à Jésus-Christ. Ça, c'est fondamental. S'il n'y a pas ça, vous pouvez construire tout ce que vous voulez, ça va s'écrouler un jour ou l'autre. Donc voilà. Et puis après, ben, évidemment, avec ça, vous avez ce qui accompagne, ce qui suit, c'est la nouvelle naissance. La séparation du péché, l'abandon des idoles, toutes les idoles qu'il peut y avoir dans notre cœur en particulier, et puis se mettre au service du Seigneur pour attendre des cieux son Fils, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Surtout aujourd'hui, attendre des cieux son Fils qui nous délivre de la colère à venir. Marcher avec le Seigneur, et ce sont ces choses expérimentées de manière profonde et suivies. Mais ça constitue vraiment un bon fondement, et c'est là-dessus que vraiment quelque chose de valable va pouvoir se construire. Et puis, encore une autre chose qui est bonne à préciser, c'est qu'une tour doit être construite aussi de façon équilibrée. Nous avons parlé de la tour de Pise, hein, tour penchée de Pise. Au départ, ben, on ne s'est pas aperçu de la chose, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, d'une part, ben, il y avait déjà un défaut. Et puis après, ben, le problème qu'il y a eu, c'est qu'il y a aussi une instabilité dans le sol. Bon, pour l'instant, elle tient encore. Mais ça nous parle. Ça nous parle qu'il faut qu'il y ait un niveau. Il faut que s'il y a quelque chose qui nous indique ce qui est droit, ce qui est bon, ce qui est juste, on ne peut pas se laisser conduire par ses sentiments, nous y revenons, par ses impressions. Nous avons besoin de vérifier d'après la parole de Dieu. Et nous avons besoin de nous laisser aussi contrôler quelque part par d'autres. D'autres qui eux aussi sont dans la construction, qui eux aussi sont dans l'épreuve, qui eux aussi ont un avis. Tous autant que nous sommes des êtres imparfaits. Il nous manque tous des choses. Et nous avons d'autres choses qui sont précieuses. Hein ? Avec ces autres choses qui sont précieuses, nous pouvons être en aide aux autres. Mais d'autres sont là pour nous être en aide dans ce qui nous manque. Nous pouvons fonctionner si nous fonctionnons ensemble. Celui qui marche tout seul, celui qui marche à l'écart, cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Nous avons besoin du conseil et du soutien. Nous avons besoin de demander conseil et de demander soutien parce que nous ne sommes pas suffisants par nous-mêmes. Et il faut se rappeler de cela. Et puis une autre chose encore qui est importante, c'est qu'une tour doit être utilisée, elle doit être consolidée, et entretenue. C'est Léonard de Vinci qui disait « Le fer rouille faute de s'en servir. L'eau stagnante perd sa pureté et se glace par le froid. De même, l'inactivité sape la vigueur de l'esprit. » Et ça aussi, c'est quelque chose qui, je pense, doit pouvoir nous parler. Vous savez, lorsque vous allez à la montagne de Reims, au parc de la montagne de Reims, parc régional de la montagne de Reims, au sud-est du parc régional de la montagne de Reims, vous avez un petit village qui s'appelle Louvois. Et quand vous entrez à Louvois, eh bien, vous avez à un moment une petite route qui part en direction de l'est et qui part en montant, comme ça. En montant vers le creux d'une vallée, et puis un peu plus loin, elle se transforme en chemin. Et puis, vous entrez dans la forêt, le chemin continue toujours tout droit, en montant, toujours en montant. À un moment, le chemin devient raide, il devient creux aussi même, c'est-à-dire que de chaque côté, vous avez des parois de terre, comme ça, surtout du côté gauche, vous voyez que ça monte encore bien, et vous continuez à monter, ça devient raide. Puis quand vous arrivez un petit peu vers le bout, vers le haut, après, vous avez encore un sentier sur la gauche qui part encore dans le bois et qui est encore plus raide. Et là, vous montez encore, Et là, ça devient essoufflant. Hein. Et d'un seul coup, vous arrivez en haut, dans la forêt, vous êtes toujours dans la forêt, là. Et là, au milieu de la forêt, qu'est-ce que vous voyez ? Une tour. Une magnifique tour qui s'appelle la tour Brisset. La tour Brisset, qui est faite en pierre taillée, avec un bel escalier en collimation à l'intérieur, en pierre aussi. On voit qu'il y avait des étages autrefois, parce que vous avez encore des restes des planchers de chaque étage. Et tout en haut, vous avez une plateforme avec de grandes dalles et un parapet de pierre. Voilà. Et maintenant, vous avez en bas, à l'entrée, une grille avec un panneau défense d'entrée, parce que l'ascension est risquée à cause du manque d'entretien et de la ruine qui menace. Mais vous allez me dire, mais pourquoi se donner la peine d'avoir construit une tour à cet endroit ? Hein ? Pourquoi une tour en plein bois ? Eh bien, c'est parce que cette tour n'a pas toujours été en plein bois. Hein ? Cette tour, eh bien, autrefois, on prenait bien garde de couper les arbres pour que la vue reste bien dégagée et que la vue puisse porter au loin. Il suffit de consulter une carte d'état-major pour voir que cette tour était à un point stratégique au bout d'un éperon élevé du relief et qu'elle avait été édifiée là pour surveiller les vignes d'une grande région. Grande région, avec un télescope ou des jumelles, par temps dégagé, il était possible de surveiller les précieuses propriétés viticoles d'une douzaine de villages au moins, à l'est, au sud-est, au sud, et aussi au sud-ouest de ce point-là. Mais lorsque cette surveillance est devenue moins nécessaire, on a trouvé d'autres moyens pour ça, alors la tour a été abandonnée, la forêt a poussé, et l'utilité de la tour a disparu. Mais notre vigne à nous, l'œuvre du Seigneur, a toujours besoin qu'on veille sur elle, mes frères et sœurs. Hein ? Et c'est pour ça qu'il faut ne pas perdre la vision d'en haut. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser le monde faire pousser petit à petit ce qui nous empêche de veiller sur nous-mêmes et sur le troupeau de Dieu et sur l'Église de Dieu. Il ne faut pas que négligions notre tour, notre vigilance, notre persévérance, notre veille dans la prière, parce que l'ennemi, je vous le dis, rôde plus que jamais à semer la confusion de toutes sortes de manières. Hein. Hélas, il est à craindre que certains aient construit de très bonnes et très belles tours dans le passé. Ah, dans le passé, oui. Des tours qui, en leur temps, furent très efficaces, très utiles, très bien conçues. Et encore aujourd'hui, ils peuvent vous montrer des vestiges impressionnants de cette belle tour. Et ils seraient même peut-être prêts à vous donner des conseils, des leçons de construction. Mais voilà, leur tour est au milieu d'une forêt de préoccupations et de soucis mondains qui font qu'ils n'ont plus de disponibilité pour veiller, plus de disponibilité pour accomplir l'œuvre de Dieu, à laquelle pourtant ils avaient participé et dans laquelle ils avaient été utiles dans leur temps. Eh oui, le temps n'est-il pas venu de débroussailler, de délaguer, de couper ces grands arbres qui deviennent de plus envahissants et paralysants pour retrouver la vue, pour retrouver la lumière d'en haut, pour être à nouveau utile et ouvrier avec Dieu. Amen. Ah, c'est important cela. Hein, rappelez-vous, si la tour de Siloé est tombée, c'est le Seigneur Jésus qui rappelle cela. Elle a tué 18 personnes. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que c'était ça. Elle n'était pas plus utilisée, elle n'a pas été entretenue. Donc, et à un moment, d'un seul coup, elle s'est écroulée. Et on peut aussi devenir ainsi une occasion de chute. On peut aussi devenir ainsi une occasion de perdition si on ne veille pas nous-mêmes sur notre propre tour. Alors, on a parlé des utilisations, donc il est bon que nous puissions considérer cela, mettre cela en œuvre avec le secours du Seigneur pour notre propre vie. Et puis, surtout que nous puissions vraiment, là aussi, agir avec fermeté et le faire sans plus tarder. Le faire sans plus tarder, parce que ça aussi, c'est un problème. Vous savez le problème lequel ? Celui de la mise en route. Ah, la mise en route. Le Seigneur parle dans l'Épître de Jacques. Écoutez donc, vous qui affirmez, demain, nous nous rendrons dans telle ou telle ville, nous y ferons des affaires, gagnerons beaucoup d'argent. Comment savez-vous ce qui vous arrivera demain ? En effet, qu'est-ce que votre vie ? C'est une vapeur qui apparaît un instant et qui ensuite disparaît. Et là encore, c'est un auteur chrétien qui a écrit les lignes suivantes. Cet homme aurait pu devenir, demain, le plus grand des inventeurs. Le monde l'aurait reconnu demain comme l'un des plus grands noms que la terre ait porté. Mais malheureusement, il mourut dans l'obscurité et tout ce qu'il a laissé derrière lui comme héritage de toute une vie, c'est une montagne de projets qu'il devait réaliser demain. Ah voilà, là encore, un homme de Dieu disait encore, le pire gaspillage de temps est celui qu'on passe à se mettre en route. Moi, je suis sûr qu'il y en a ici. Ils savent qu'ils devraient se tourner vers le Seigneur. Ils savent qu'ils devraient s'engager pour le servir. Ils disent oui, je vais le faire, Quand ? Tu attends que les poules aient des dents ? Tu attends quoi ? C'est aujourd'hui et sans plus tarder. Et pas demain. La route de demain mène à la ville de jamais, hein, dit ce proverbe espagnol. C'est cette réalité-là. Donc voilà. Donc Dieu nous appelle, il nous appelle. Et puis là, je vais arriver un petit peu vers une conclusion, simplement pour rappeler qu'il y a eu encore une image, l'image d'une tour que le Seigneur met devant nous. C'est cette tour avec une lumière. Hein. On appelle ça un phare. Vous avez entendu parler de ça, je pense. Hein. Le Seigneur Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Vous savez, depuis les temps éloignés où les hommes ont commencé à naviguer sur les mers, à allumer des feux sur la côte, c'est quelque chose qui s'est avéré nécessaire pour guider les marins jusqu'à la sécurité de leur port. Et puis après, vous avez des bâtisses qui ont été élevées afin d'accroître la portée de la lumière générée par ces feux. Dans l'Antiquité déjà, vous aviez le phare d'Alexandrie qui était une des sept merveilles du monde. Hein. Déjà, c'était comme cela à l'époque. Les phares sont nés comme ça et Georges Bernard Shaw a dit un jour « Je ne peux imaginer aucune autre construction humaine plus altruiste que le phare. Sa seule raison d'être, c'est de servir les autres. » Et Jésus a utilisé une image comparable hein, pour expliquer quel doit être notre rôle ici-bas. Il a dit « Nous devons éclairer. » Et comment devons-nous éclairer ? Je dirais, dans un phare, vous avez deux choses, en dehors du fait qu'il y a une tour. Vous avez deux choses en ce qui concerne la lumière. La première, c'est qu'il a une lumière en lui-même. Hein, autrefois, les feux qu'on y faisait, voilà, vous avez des feux à gaz, et puis après, vous avez d'autres technologies qui sont venues jusqu'au laser aujourd'hui. Hein, donc, voilà, vous avez une lumière intérieure, ça c'est déjà une chose. Et nous devons avoir cette lumière en nous, par le Saint-Esprit, la lumière de Christ, par la communion avec notre Sauveur. Hein, c'est ça que nous devons avoir en nous. Et puis ensuite, il y a autre chose dans le phare, ça s'appelle le ou les réflecteurs. Hein. Ce sont en général des parois, des genres de miroirs hein, qui sont concaves comme cela et qui permettent d'orienter la lumière dans l'une ou l'autre direction pour indiquer ce qui doit être indiqué au navire. Donc, d'après le livre des feux qu'on trouve après sur le navire. Des réflecteurs qui projettent cette lumière intérieure au loin dans la nuit. Et vous savez, le monde est vraiment dans les ténèbres aujourd'hui. Hein. Les gens, ils savent vraiment pas où ils en sont, ils savent vraiment pas où ils vont. C'est vraiment... Et ils ont besoin de lumière, ils ont besoin de témoignages. Et nous devons être des témoins. Et il faut que notre lumière puisse ainsi luire devant les hommes et que Dieu Seigneur nous soutienne et nous aide également en cela. Amen. Et pour conclure maintenant, bien, je voudrais vous lire simplement une petite réflexion que j'ai trouvé aussi là. Il n'y a pas si longtemps de cela, nous nous réjouissions dans nos pays occidentaux de notre économie stable et florissante, de notre système médical si bien organisé, de nos démocraties protégeant nos libertés. Et puis les temps ont changé en si peu de temps. Le prix du pétrole a flambé, la pollution s'est installée dans nos villes et nous voilà pleurant sur nos gros moteurs gourmands et envisageant d'autres modes de transport. Les journaux relatent de plus en plus de catastrophes naturelles, d'ouragans ou de sécheresses dévastatrices. Des tremblements de terre frappent de nombreux pays et des milliers d'enfants sont ensevelis dans des ruines. Des inondations catastrophiques submergent des contrées entières. Ailleurs, des milliers d'hectares sont détruits par des incendies gigantesques. Puis surgit une pandémie que personne n'attendait. C'est comme si notre couverture douillette venait d'être tirée brutalement loin de nous et que notre petit confort s'envolait en fumée. C'est la réalité. Mais qu'est-ce qu'on va faire face à cette réalité-là ? Est-ce qu'on va être là simplement à essayer de retirer un petit bout de couverture juste pour nous protéger, nous ? Vous savez, ça ne sert à rien, ça n'ira pas loin. Hein ? Non. Lorsque les hommes commenceront à être dans la crainte, à trembler autour de vous, qu'est-ce qui est marqué ? Redressez-vous. Relevez votre tête parce que votre délivrance approche. Alléluia. Et c'est ça qu'il faut. Et c'est pour cela que aujourd'hui, plus que jamais, il est important de prendre la mesure de ce qui se passe. Je ne veux pas m'étendre. Là, j'ai juste abordé quelques petits aspects. On pourrait aborder encore bien d'autres choses. Mais nous voyons vraiment les temps dans lesquels nous vivons. Que nous puissions avoir une tour, que nous puissions être sur cette tour, que nous puissions, nous, les uns et les autres, chacun veiller, prendre garde pour que nous sachions où nous en sommes et que nous sachions où nous allons. avec le secours du Seigneur, il pourra en être ainsi. Amen. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, encore pour ta grâce et ta fidélité. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu nous aides à nous attacher aux choses du ciel. Béni sois-tu parce que tu nous aides chacune et chacun à ne plus perdre notre temps à toutes sortes de choses annexes, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Nous voulons courir dans la voie qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Alléluia, merci Seigneur, qu'il puisse en être ainsi pour chacune et chacun, que chacun puisse prendre dans son cœur une décision ferme, une décision convaincue, alléluia, et que de cette manière, il puisse être soutenu et accompagné par son Seigneur. Merci notre Dieu, béni sois-tu. Oh, ta grâce coule encore aujourd'hui pour tous ceux qui se confient en toi. Sois béni notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Plusieurs annonces. Que se remercier ceux qui ont participé donc à la mission de Besançon, ceux qui l'ont soutenu aussi par leur prière. Je rappelle que nous avons une séquence de questions-réponses bibliques mercredi à 19h15 et à la suite donc la réunion de prière à 20h15. Il n'y a pas besoin de s'inscrire pour participer à ces moments-là. Témoignages et prédications en ligne, c'est le vendredi à 20h15 sur le site de l'Église. Donc pour l'instant, c'est encore comme ça. Et je vous rappelle dès à présent ce qui est marqué sur le panneau depuis longtemps là-bas au fond, c'est-à-dire la mission à Chalon du mardi 24 au jeudi 26 août. Voilà, on peut prier aussi pour que Dieu bénisse ce qui va être fait. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et vous soutienne.